Salut Charles, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour discuter de sécurité dans la crypto-monnaie. Tu es CTO, comme on dit dans le jargon, chez Ledger, donc responsable de la sécurité. On va voir un petit peu ce que ça veut dire d'être CTO chez Ledger et surtout comment sécuriser au mieux ces crypto-monnaies, quels sont les dangers qui guettent nos précieuses crypto-monnaies et comment essayer d'éloigner ces méchantes ondes tout au long de cet épisode et de ce podcast. Avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Charles, s'il te plaît, et nous dire comment tu es arrivé chez Ledger?
Oui, salut Valentin, ravi de faire partie de ce podcast. Je vais juste rectifier un tout petit peu, je suis CTO et donc je suis en charge de la technologie. Et étant donné que la technologie de Ledger, c'est la sécurité, ça fonctionne bien ton introduction, donc je suis entre autres en charge de la sécurité. Donc pour te donner un peu mon background, moi la sécurité et la cryptographie, c'est un truc qui m'intéresse depuis que j'ai 12 ans, je pense. Quand j'ai récupéré un ordi à l'époque, les premiers trucs qui m'ont intéressé, c'est de savoir comment on pouvait craquer et hacker toutes les différentes choses. J'ai toujours été passionné par la technologie, mais encore plus spécialement par la sécurité. C'est devenu mon travail bien après. Pendant mes études, je ne pensais pas en faire mon travail. J'ai étudié plutôt les maths fondamentales, c'était un truc qui me plaisait beaucoup. Et puis ensuite, le débouché de la recherche en maths, il y a eu un moment où j'ai eu un peu un doute et du coup je me suis dit que vu que mon autre passion c'était l'informatique, je me suis dit que c'était pas mal d'allier les deux. Et quand tu veux faire des maths fondamentales et d'informatique, la cryptographie c'est le truc qui colle très très bien, et du coup ça résonnait bien avec mes premières amours autour de la sécurité et de la cryptographie quand j'étais plus jeune. J'ai toujours travaillé dans le secure hardware, enfin dans la sécurité, mais plus spécifiquement dans le secure hardware, les smart cards, les HSM et les secure elements. À la fois essayer de designer des solutions de sécurité basées là-dessus et à la fois essayer de les casser. Globalement, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. Juste avant Ledger, j'étais en charge d'un CESTI, donc c'est un centre d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information. Pour la faire courte, c'est un lab externe qui va faire des évaluations sécuritaires pour notamment des certifications, typiquement les cartes bancaires et les passeports. Avant qu'ils puissent arriver sur le marché, ils ont besoin de ce genre de certification et donc ils passent au travers d'un long process d'évaluation. Du coup, j'ai rejoint Ledger il y a 4 ans. Maintenant, je commence à faire partie des OG de Ledger. Et quand je suis arrivé, Nicolas Bacca, qui était CTO à l'époque, m'a accueilli et m'a montré une grande pièce vide et blanche. Et il m'a dit « Salut Charles, c'est ici que tu vas pouvoir créer le département sécurité de Ledger ». Et puis c'est tout. C'était à la fois très surprenant, mais à la fois ultra excitant d'avoir une page blanche et de pouvoir écrire son histoire. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai créé le Donjon, qui est notre équipe de recherche en sécurité, qui fait pas mal de red team. On essaie de trouver des vulnes sur nos produits, et quand ils en trouvent, on améliore tout ça. Ensuite, j'ai créé plus une équipe de certification. Ce qu'on vend à nos clients, c'est la promesse de la sécurité. C'est mieux si tu peux apporter certains éléments de preuve de tes promesses, et la certification s'en fait partie. Donc aujourd'hui, nos produits sont certifiés. Et il y a un peu plus de deux ans et demi, après diverses circonstances, Pascal m'a demandé de prendre le rôle de CTO et d'être en charge de toute la tech en général. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu donc CTO de Ledger. Voilà un peu pour mon parcours en quelques minutes.
Et on a eu l'occasion de visiter l'usine de Ledger il y a quelques semaines, et je mettrai en fiche et en description cette petite vidéo. Mais on ne vous a pas vu, vous, parce que vous n'êtes pas directement lié sur l'usine de Ledger. Le donjon, c'est extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on n'a plus eu l'occasion de se croiser à l'époque. Ce qui est amusant dans ton parcours, là, c'est j'ai vu que tu es titulaire d'un master en sciences des cryptographies, en gros, de cryptographie. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on apprend dans ce cursus-là, sachant qu'à l'époque où tu l'as fait, je ne veux pas dire que tu es ancien, mais je pense que tout ce qui est crypto-monnaie et tout, ce n'était pas forcément encore très là, si.
Non, clairement, la plupart des algos et ce qui se passe aujourd'hui dans les crypto-monnaies et dans la blockchain en général, c'est des choses qui ont été découvertes bien après, en fait. Donc, moi, quand j'ai appris la cryptographie, donc c'était en 2007, 2008, par là, je dirais, peut-être un peu avant, les choses qu'on a appris, c'est pas mal de théorie d'information. Ça, c'est des éléments importants, toutes les notions d'entropie, et après, les basiques de comment tu assures la confidentialité avec les différents algos de chiffrement symétrique, AES, DES, pourquoi on est passé de l'un à l'autre, quelles sont les faiblesses de chacun, enfin, surtout de DES, et comment les designs ont été choisis. Après, pareil autour de la cryptographie asymétrique, donc RSA évidemment, puisque à la fois il est facile à comprendre, et puis à l'époque c'était toujours, et c'est toujours le cas, l'algo le plus utilisé. Je pense que là ça commence à changer, mais voilà. Et puis évidemment, toutes les algos autour des courbes elliptiques. Et je me souviens très bien du cours pendant lequel on m'a introduit l'algorithme de signature de Schnorr. Et qu'on m'a dit à l'époque, eh ben, tu vois, cet algorithme, on l'a jamais utilisé parce qu'il est patenté. Et donc, c'est drôle que 15 ans après, le patent est tombé. Et ensuite, maintenant, il est introduit dans Bitcoin. Après, bon, on a appris plein d'autres choses autour de la post-quantum cryptographie. C'était déjà un sujet à l'époque. C'est assez large, mais typiquement, tous les nouveaux algos crypto d'aujourd'hui que tu peux trouver dans l'univers de la blockchain, que ce soit le MPC, les Trestle Signatures, que ce soit le Zero Knowledge Proof, que ce soit toutes ces choses qui arrive, et puis rien que la technologie blockchain. C'est des choses qui n'existaient pas du tout à l'époque, et du coup, et ben, il a fallu se mettre à niveau, et c'est aussi ça qui est excitant. On continue d'apprendre tout le temps dans ce domaine-là.
Il y a une petite année, je crois qu'on avait fait un podcast avec Serge Baudonnet, que tu connais peut-être, qui est un cryptographe français.
Ouais. Ouais.
Et on avait discuté ordinateur quantique et les risques et tout que ça pouvait avoir sur Bitcoin aussi. C'était assez passionnant, mais la cryptographie, c'est vraiment un truc tellement complexe, mais qui a l'air. Bah, qu'à la base de tout dans la crypto-monnaie, ça c'est sûr, ou de beaucoup de choses en tout cas, mais qui a l'air vraiment infinie parce que ça touche à beaucoup, beaucoup de choses. Pour revenir justement sur la cryptographie dans les crypto-monnaies, est-ce qu'en quelques minutes, je ne vais pas dire quelques mots, ça serait trop challengeant, tu peux nous introduire un petit peu ce qui fait, comment ça fonctionne, les clés privées, les clés publiques, et ce qui fait que nos crypto-monnaies sont en sécurité si on fait bien les choses, en gros, pour vulgariser un max.
Ok, alors je vais essayer de vulgariser deux choses. La première, c'est la blockchain, et la deuxième, c'est effectivement les signatures. Donc la blockchain, c'est une chaîne de blocs, et il y a un truc intéressant, c'est le côté immutable. Pourquoi c'est immutable et qu'est-ce qui se passe dans le mining, etc. Et là, en fait, il y a une fonction qui est très importante dans ce processus, c'est une fonction de hash. Un hash, c'est une fonction qui prend n'importe quel fichier, n'importe quelle donnée de n'importe quelle taille, et qui va y associer un condensat, donc un hash, qui va faire que 128 ou 256 bits selon. Et en fait, cette fonction de hash, elle est de telle sorte que c'est ce qu'on appelle une one-way function. C'est-à-dire que une fois que tu as un hash, c'est très difficile de revenir à la donnée qui permet d'avoir ce hash. Par contre, appliquer le hash, prendre un fichier et calculer son hash, ça c'est quelque chose qui est facile à faire. Donc c'est en ce sens-là que c'est one way. Aussi, on espère que les collisions sont difficiles à trouver. Par exemple, c'est difficile de trouver deux fichiers différents qui vont donner le même hash. Et donc ça c'est assez précieux et pratique pour la blockchain dans le sens où les blocs de la blockchain, ils sont liés à travers le hash. En gros, dans chaque bloc, tu récupères le hash du bloc d'avant et tu l'introduis dans le bloc suivant. Et tu vas calculer le bloc de ce nouveau a, de, le hash de ce nouveau bloc encore et encore. Donc ça fait que si tu changes un bit quelque part dans la blockchain, bah, en fait, il faudrait recalculer tout le hash parce que tout devient faux. Et en plus de ça, le mécanisme de mining fait qu'il y a une course à celui qui va trouver le hash le plus rapidement possible, etc., avec un nombre de zéros qui est prédéfini à l'avance. Et comme je te disais avant, pour un hash donné, c'est très difficile de trouver une donnée qui va te donner ce hash. Et ben, de la même manière, pour un hash donné, non pas complètement donné, mais juste pour un hash qui dit tu as 10-0 en début de hash. Trouve-moi le fichier ou le bloc qui donne, ou le nonce en particulier qui donne ce hash. Ça, c'est un problème très difficile et il n'y a pas d'autre stratégie aujourd'hui que de les tester tous. Et c'est ça le mining, en tout cas pour le proof of work. Donc ça, c'est un premier élément de cryptographie. Et le deuxième élément de cryptographie, c'est les signatures, plus particulièrement les digital signatures. Et en fait, quand tu as des bitcoins, quand tu as des Ethereum, quand tu as des crypto-monnaies, en fait, elles se trouvent dans la blockchain, disons, tout ça est écrit dans la blockchain. Mais par contre, ce que tu as vraiment, c'est une clé privée. Une clé privée, c'est quelque chose qui va te permettre de prouver au monde que tu détiens bien cette clé privée. Par le moyen de la signature. En gros, une signature électronique, c'est un algorithme qui, avec ta clé privée, tu vas faire la preuve que tu détiens cette clé privée sans jamais exposer aucune info à propos de cette clé privée. Ça, c'est vraiment ce qui est au cœur de l'algorithme de signature électronique. La clé publique, c'est un élément que tu vas pouvoir partager à tout le monde et chacun va pouvoir vérifier la preuve que tu viens de faire. Donc, tu me donnes, je ne sais pas, un challenge, par exemple. Un challenge, ça va être un message. Moi, je vais signer ce message donc avec l'algorithme de signature électronique avec ma clé privée. Et toi, tu peux vérifier que c'est bien moi qui l'ai signé parce que tu as ma clé publique. Et ma clé publique, par définition, elle est publique. Et donc, en fait, quand on dépense des cryptocurrencies, ce qu'on fait, c'est qu'on signe un message ou un script ou quelque chose qui va prouver qu'on est bien le possesseur de la clé privée qui sécurise les bitcoins qui correspondent à une clé publique donnée. Bon, j'ai essayé de tout mettre dans une phrase, j'espère que c'est clair. Et c'est pour ça que c'est crucial d'avoir toujours cette clé privée et de jamais la perdre. Parce que si tu la perds, si un attaquant met la main, donc si tu la perds, bah, tu ne peux plus jamais prouver que tu es bien le owner de tes cryptocurrencies, et bah, du coup, tu ne peux plus jamais les dépenser, donc quelque part, tu les as perdues. Et à l'inverse, si un attaquant met la main sur ta clé privée, et ben, il va pouvoir faire comme toi. Il va pouvoir prouver qu'il détient bien sa clé privée, ta clé privée en pratique, et donc dépenser tes fonds.
Ok. Et c'est, on s'en rappelle d'ailleurs, il y a quelques années, des gens qui se faisaient passer pour Satoshi Nakamoto et on disait, allez, bougez, montrez votre clé privée, bougez les bitcoins avec vos clés privées pour voir si c'est vous. Et ça n'a jamais eu le cas. Ça n'a jamais été le cas.
Exactement. Exactement, ce truc-là, en fait, tous ceux qui ont claimé, tous ceux qui ont dit au monde « oui, c'est moi, Satoshi Nakamoto », en fait, il y a un seul truc qui peut prouver que tu es Satoshi Nakamoto, c'est de faire une signature, de montrer que tu es bien le détenteur de la clé privée. Et tu n'as même pas besoin de montrer ta clé privée, en fait. Tu as juste besoin de signer un message ou de bouger des bitcoins. Si tu bouges des bitcoins, tu vas signer un message qui va permettre de le faire. Et en fait, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, claimer que tu es Satoshi Nakamoto, bah, ça n'a aucune valeur. En fait, si tu l'es, prouve-le. Et puis voilà, c'est tout. C'est super facile à faire.
Ouais, donc, c'est plus simple que d'aller devant la justice pour essayer de le prouver. Et justement sur ces thématiques-là, quand on parle de clés privées, beaucoup de gens, je pense, qui nous écoutent ont une ledger ou en tout cas ont un portefeuille type MetaMask, tout ça. Tu sais, on nous donne 24 mots ou 12 mots et parfois on a du mal à comprendre. Est-ce que c'est ça la clé privée? Est-ce que la clé privée, c'est ce qui en sort? Et quelle est la liaison entre les deux, entre justement ces 12 ou 24 mots et la clé privée en fait qui sort derrière?
Yes. Alors en fait, une clé privée, c'est donc une donnée qui va faire 256 bits de long. Donc, c'est pas super pratique à se souvenir. Ça va être des hexadécimales, etc. Et c'est quand même pas mal d'éviter de la perdre, comme je disais juste avant. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ce standard qui s'appelle BIP39. Et en fait, on va générer ce qu'on appelle une seed. Et en fait, donc cette seed, ça va être un morceau de données qui est très aléatoire de 256 bits quand c'est 24 mots et 128 bits quand c'est 12 mots. Et en fait, ces 256 bits, on va les mettre d'une façon qui est human readable, enfin, qui est facile pour un humain de se souvenir et d'écrire. Et cette façon, c'est de les mettre sous forme de mots. Alors, comment ça fonctionne? C'est assez simple. Tu génères tes 256 bits, tu les coupes en chunks de 11 bits. Et donc, tu vas avoir, ça ne fait pas 256, tu fais 11 fois 24 parce qu'il y a une checksum, tout va bien. et donc, chacun de ces chunks de 11 bits, tu vas lui associer un mot dans un dictionnaire. Le dictionnaire, comme tu l'as compris, il fait 2 puissance 11 mots, c'est-à-dire 2048 mots. Et donc, tu prends le premier chunk de 11 bits, tu regardes combien ça fait en en décimales, disons. Ça va faire 364. Tu regardes dans ta liste de 2048 mots, quel est le 364e mot. Et là, tu as le premier mot de ta suite. Et tu fais comme ça pour les 24 mots. Donc, la correspondance seed mot, 24 mots, elle fonctionne vraiment comme ça. Et une fois que tu as cette seed de 24 mots, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver de manière déterministe tes clés privées qui correspondent à ces 24 mots. On va récupérer ces 24 mots et de manière déterministe, on va dériver les clés privées qui correspondent à ces 24 mots. Et en fait, on fait ça pour pouvoir avoir à ne se souvenir seulement de ces 24 mots, alors que tu vas pouvoir utiliser des clés privées pour Bitcoin, pour Ethereum, etc. Et en fait, le mécanisme qui va faire que tu dérives ta seed pour Bitcoin, pour avoir une clé privée Bitcoin, pour Ethereum, avoir une clé privée Bitcoin. C'est encore les fonctions de hachage dont je parlais tout à l'heure, qui sont des one-way functions. Donc là, c'est encore pratique parce que si jamais tu te fais compromettre ta clé privée Bitcoin, tu n'es pas capable de remonter à la seed. À l'inverse, si tu as la seed, par contre, tu es capable de régénérer toutes tes clés privées Bitcoin, Ethereum et toutes les autres cryptocurrencies que tu peux avoir.
D'accord. Et c'est à partir de cette clé privée-là que sont émises les clés publiques ou c'est l'inverse ?
C'est ça, non. C'est à partir de... Non, si c'était l'inverse, tu aurais un problème parce que ça veut dire qu'à partir de la clé publique, tu peux retrouver la clé privée de la personne et du coup, ça sera un problème. Non. C'est à partir de la clé privée qu'on va générer ta XPub et ensuite on va redériver pour avoir les différentes clés publiques et les adresses, etc. Et tout ça est complètement déterministe. Si tu as la clé privée, tu es capable de tout régénérer.
C'est ça, ok. Et dernière question là-dessus avant de passer sur la deuxième partie de cette discussion. Quand on crée, que ce soit avec Ledger encore une fois ou avec d'autres sites type MetaMask, une clé privée et les clés publiques, en fait, c'est choisi aléatoirement et c'est infiniment improbable de tomber sur une déjà réelle, hein, c'est ça, déjà créée.
Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Donc, effectivement, c'est très important que ce soit généré de manière très aléatoire parce que si l'algo il a un biais et que le biais est trop grand, bah, ça veut dire que dès qu'il y a un attaquant qui connaît ce biais ou qu'il découvre, il va pouvoir retrouver toutes les seeds qui ont été générées de cette manière-là. C'est déjà arrivé dans le passé, c'est pour ça que je le mentionne. Et effectivement, l'espace des clés possibles, il est gigantesque. Genre, si tu veux essayer au hasard de trouver une clé parmi celles qui existent déjà, alors, et tu les génères au hasard, donc tu génères au hasard des clés, et tu essaies d'en trouver une qui existe déjà, tu as autant de chances de réussir à faire ça que de gagner 13 fois au loto d'affilée.
Okay,
c'est pour te dire, ce n'est pas impossible, théoriquement c'est possible, mais la probabilité, elle est juste infime de chez infime. Et de la même manière aussi, si tu prends toute la puissance disponible aujourd'hui, de puissance de calcul disponible aujourd'hui pour brute forcer tout ça, et il te faudrait plusieurs fois, plusieurs milliers ou millions de fois l'âge de l'univers avec la puissance de calcul qu'on a aujourd'hui. Donc, ouais, ce n'est pas impossible, mais globalement, les probabilités sont avec nous.
Ouais, on est assez tranquille et on ne parlera pas ici de l'ordinateur quantique. On a déjà eu l'occasion de parler avec Serge Vaudenay, donc je mettrai en description encore une fois cet épisode-là parce que là aussi, c'est assez important de se poser la question. C'est assez dingue aussi de voir les opportunités qu'offre l'ordinateur quantique, mais là, ça serait, on n'y est pas pour l'instant dans tous les cas.
Sujet passionnant, mais ça prend du temps. Si on veut vraiment en discuter, on en a pour un épisode entier. On a déjà fait avec Serge Vaudenay, je ne dirais pas mieux que lui, je pense.
c'était très intéressant. Sur la partie Ledger, Hardware Wallet, pourquoi un Hardware Wallet, il est plus safe de l'avoir chez moi déconnecté justement que de l'avoir sur mon MetaMask? Je viens de donner un élément de réponse, mais voilà, pourquoi une Ledger plutôt qu'une application sur mon ou tout simplement ma seed sur mon bloc-notes de téléphone, quoi.
Alors, globalement, quand tu as des cryptocurrencies, tu as trois propriétés que tu as envie d'assurer pour la sécurité de tes cryptocurrencies. La première, ça va être ce que j'appelle la security at rest, c'est-à-dire à quel endroit est stocké ta seed et tes clés privées. Et ensuite, ça va être la security at use. Au moment où tu veux prouver que tu es bien le owner de ta clé privée et que tu vas faire des signatures digitales, justement. À quel endroit ça se passe? Est-ce que ce truc-là est bien sécurisé, etc. Et le troisième élément qui est aussi important, c'est quand tu vas interagir avec la blockchain, que tu vas signer une transaction, que tu vas signer le transfert d'un NFT ou quelque chose comme ça. Comment tu es certain que l'interaction que tu es en train de faire, c'est bien celle que tu veux? Donc, c'est là que c'est important d'avoir le « what you see is what you sign ». Et c'est là que le « trusted display », en tout cas, c'est ce qu'on nous on offre, c'est important. Donc, si on revient sur les différentes propriétés, typiquement, si ta seed est dans MetaMask ou dans software wallet, quel qu'il soit, le problème, c'est que dès que tu as un malware sur ton ordi ou sur ton téléphone, eh ben, il n'y a pas beaucoup de difficultés, voire pas du tout de difficultés à accéder à cette mémoire, à cette data qui va se trouver dans ton extension ou dans ton software wallet. Et en fait, le malware, il va juste extraire ta seed, l'envoyer à l'attaquant et c'est fini. Donc, si ta seed est dans ce genre de software wallet, globalement, tu as de bonnes chances que à un moment ou à un autre, un malware vienne la récupérer et que tu perds tes fonds. Donc ça, c'est la première chose. On peut imaginer que dans le futur, on pourra les mettre dans des enclaves sécurisées, typiquement dans les téléphones. Parce que bon, aujourd'hui, c'est un truc qui n'est pas vraiment possible et surtout, il n'y a personne qui implémente ça. Tous les software wallets sur téléphone, ta seed, elle est directement dans l'application. Et donc, un malware, n'importe quel malware qui tombe sur ton téléphone, il va casser l'isolation d'Android ou d'iOS. C'est un truc assez facile à faire. Et il va du coup, il va pouvoir accéder à ta seed assez facilement. Donc, on peut se dire que peut-être dans le futur…
Elle est même pas protégée, la seed, encodée ou quelque chose comme ça. Elle est ouverte comme ça, quoi.
Oui, elle est encodée avec… Le problème, c'est que ton application, elle a besoin d'y accéder au moment où elle l'utilise. Donc, elle ne va pas inventer des secrets pour la protéger. Enfin, si elle les invente, de toute façon, ces secrets sont dans l'application. Donc, oui, effectivement, il y a des petits trucs comme ça, mais au final, c'est zéro, en fait. Il n'y a pas de sécurité. C'est juste une question de temps, de comprendre comment l'application, elle stocke la seed. Parce qu'effectivement, il la stocke assez rarement, ça arrive complètement en clair. Mais quand il la stocke de manière encodée. Donc là, tu as juste à regarder comment il encode dans l'application et tu décodes et c'est fini, quoi.
Et c'est de la même manière. Tu as vu, j'ai appris avec Serge Audonnet qu'on ne dit pas crypté, j'ai dit encodé, tu vois. Ça progresse dans le pratique. Parce que beaucoup disent crypté, il m'a dit non, crypté, ça ne veut rien dire. Je dis ok, très bien. Donc c'est encodé, le mieux, c'est quoi?
Encodé, c'est un truc différent. Non, ce que tu voulais dire, c'est chiffré, du coup.
Chiffré, ouais, pardon.
Chiffré, déchiffré. Et qui est la version française de encrypt, decrypt. Mais effectivement, encrypté, ça se dit pas en français. Mais pour chiffrer, tu as besoin d'une clé privée qui va te permettre de chiffrer ta seed. Et donc, tu peux le faire à la limite, mais le problème, c'est que cette clé privée, elle va toujours être dans ton application sur ton téléphone. Mm-hmm. Donc, il s'agit juste de récupérer ça et de déchiffrer la seed chiffrée et puis et tu accèdes à la seed, quoi.
Ouais, d'accord.
Et encoder, c'est juste la coder dans une autre représentation. Par exemple, si tu la passes en hexa ou n'importe, c'est un encodage différent, quoi.
Ok. Et du coup, de l'avoir sur un hardware wallet, ça élimine ce risque premier, quoi.
Bah, du coup, l'acide, elle est stockée directement dans un hardware. Dans un hardware, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il y ait un malware, dans le sens où c'est un truc qui est tout petit et qui est vraiment dédié à ne faire que ça, etc. Je pense qu'une des grosses, un des gros apports du hardware wallet, c'est le fait que tu as une surface d'attaque qui est vraiment minuscule. T'as pas des process qui tournent en même temps. C'est compliqué de discuter, de dialoguer avec l'hardware wallet. Tu as juste la couche USB ou BLE et ensuite tout ça est sérialisé simplement. Donc rien que le fait que tu aies une surface d'attaque très 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 limitée, ça c'est déjà un super apport pour la sécurité. Et en plus de ça, nous on utilise des secure elements qui rend le truc encore plus sécurisé parce que ces circuits ont été designés spécifiquement pour la sécurité. Donc, les seeds, elles restent toujours dans le wallet. Au moment où tu veux faire une transaction, la cryptographie est implémentée dans le secure element et la seed ne sort jamais de ce secure element. Et enfin, on a la troisième propriété, le what you see is what you sign. Quand tu consens une transaction, tu peux vérifier directement sur l'écran de ton device ce qui est en train de se passer.
Et justement, c'était une des attaques récentes, vecteur d'attaque sur la finance décentralisée avec BadgerDAO, qu'on a traité aussi chez Cryptost. Et c'est compliqué de voir effectivement quand tu as des contrats qui font des beaucoup de signatures. Et je sais que vous travaillez en ce moment où c'est peut-être déjà bien avancé sur une capacité à décrire ce qu'on est en train de signer.
Exactement. Ça, c'est un vrai problème qui n'est pas simple à résoudre. C'est que dans la DeFi, dans la finance décentralisée, les interactions que tu as avec tes assets sont de plus en plus compliquées. Et en fait, ce que tu fais, ce n'est pas juste signer une transaction, c'est interagir avec un smart contract et faire des appels de méthode, etc. Et donc, le payload que tu signes, il est de plus en plus compliqué à comprendre. Et bon, quand tu es dans un software wallet, que le payload soit décodé ou non, de toute façon, tu ne peux pas truster ce qui est écrit. Donc, bon, c'est mieux s'il le décode, mais au final, ça ne veut rien dire. Côté hardware wallet, être en capacité de décoder toute cette logique et la rendre intelligible pour l'utilisateur, ce n'est pas un truc super facile. Et d'autant moins qu'il y a de plus en plus de nouveaux protocoles, de plus en plus de nouvelles blockchains, etc. Néanmoins, c'est un truc sur lequel on travaille ardemment. Et sur Ethereum, on supporte de plus en plus de smart contracts et on vise à avoir au moins… Aujourd'hui, là, par exemple, si tu utilises Paraswap, sur ton device, il y a écrit que tu es en train de swapper 0,01 Ethereum versus 400 USDT. Et ça, c'est directement écrit tout sur ton device. Il n'y a pas écrit les fields du smart contract que tu es en train d'appeler. Donc, ça, c'est le mécanisme de plugin qu'on a développé. Donc ça, on continue à en développer. Vu qu'on est une plateforme ouverte, on fait en sorte que les développeurs de l'écosystème puissent aussi proposer leur plugin, etc. Et y a un autre truc sur lequel on travaille dans le futur, c'est d'avoir un système de décodage de ces payloads à peu près générique. Ça ne sera jamais aussi fin et bien présenté que le truc qu'on a sur Paraswap et d'autres, par exemple, et sur les NFT. C'est un truc qu'on a développé récemment aussi. Néanmoins, ça permettra d'avoir, dans le cas où on n'a pas le support premium tu vois, de ton smart contract, au moins de ne pas avoir juste un hexa à signer. Pour quand tu signes un hexa, le problème, c'est que là, potentiellement, tu es en train de donner tous tes fonds à quelqu'un d'autre, quoi.
Oui, parce que c'est vrai qu'au début, sans la DeFi et sans toutes ces interactions, ce qu'on regardait sur l'écran du Ledger, c'est est-ce que j'envoie bien à la bonne adresse que celle à laquelle je voulais envoyer ? Et ouais, point barre. Et c'est vrai que maintenant que tu dois interagir avec tout un tas de choses, parfois c'est safe, tu signes, on ne va pas prendre la main sur la signature, mais ce que tu signes, c'est j'envoie tous mes fonds à quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que
Exactement.
C'est compliqué. C'est vrai que c'est
surtout
compliqué.
Surtout sur Ethereum.
Ouais. Sur Ethereum, et oui, en plus, plus que les autres, mais c'est vrai que sur toutes les autres blockchains, à terme aussi, il y a ce risque-là.
Ça va venir aussi, ouais.
Et forcément, il n'y a pas d'appel et de retour en arrière possible une fois que ça a été le cas. Et c'est pour ça qu'il y a eu un souci avec Badger il y a quelques semaines qui a eu lieu sur tous les appareils ou tous les MetaMask ou tous les autres trucs, parce que c'était entre les deux, justement, que c'était complexe. Mais ouais, voilà une difficulté supplémentaire. Et
moi, la règle que je me fixe à moi en tant qu'utilisateur, c'est de jamais blind signer. Jamais. Genre, si je serais vraiment trop déçu de blind sign une transaction et de perdre du coup des fonds liés à ça. Néanmoins, du coup, si on se fixe ce genre de règle, le problème, c'est que ça ferme un peu une certaine partie de la DeFi parce qu'il y a toujours des nouveaux protocoles et on a envie de les utiliser, etc. Donc moi, ce que je conseillerais aux gens qui veulent prendre ce risque, c'est de ségréguer. De ségréguer les comptes, voire mieux de ségréguer les seeds, de se dire « Ok, sur ce wallet, je m'offre la possibilité de prendre un peu plus de risques, mais par contre, ça ne met pas à risque mes fonds qui sont importants pour moi et qui est mon cold wallet, etc. » Donc, au moins, quand tu ségrègues ça, tu sais que si tu perds une partie de tes fonds, tu vas seulement perdre cette partie-là et que tu prends le risque en le sachant, quoi.
Ouais, c'est toujours la même chose d'y aller prudemment, de faire plusieurs transactions, voire effectivement avec une petite somme, et ensuite, même si ça ne suffit pas toujours, mais en mettant ces éléments de sécurité petit à petit, bout à bout, normalement, on se protège d'un paquet de choses. Et sur justement la partie plutôt MetaMask et Coinbase Wallet, ou tout le reste, en fait, tout ce qui est sur nos téléphones, on peut en citer des dizaines, c'était justement l'objet d'un des talks qu'il y a eu et que tu as fait à Open à Paris il y a quelques jours, la conférence des développeurs sur Paris mis en place par Ledger, c'est Pegasus, l'un des gros scandales ou gros logiciels espions. Et en fait, on se rendait compte qu'avec ces logiciels espions, notamment celui-ci, on pouvait accéder enfin ceux qui savaient l'utiliser, notamment parmi toutes ces choses à laquelle vous pouvez accéder au site des utilisateurs. C'est quelque chose aussi qui est très pris au sérieux là, dans l'écosystème, ou est-ce que c'est pas plus pris au sérieux que fallait m'avoir un hardware wallet, point barre?
De toute façon, on ne peut pas vraiment se prémunir de ça. Pegasus, pour moi, c'est juste le signe que ce truc-là existe. Enfin, quand tu travailles dans la sécurité, la sécurité, la recherche en sécurité, la recherche de vulnérabilité, c'est devenu un business qui représente des millions et probablement des milliards, dans le sens où il y a des gens qui sont très intéressés par avoir ces vulnérabilités et d'autres qui sont très intéressés par les vendre. Ça, c'est il y a des chercheurs qui sont un peu grey hat, je dirais, parce que quand tu trouves une vulnérabilité, tu as deux stratégies, ou trois, disons. Soit tu la reportes au vendor et qui va la fixer, et généralement, tu as un bounty. Soit tu l'exploites toi-même, donc là, généralement, tu essaies de faire de l'argent avec ta vulnérabilité, donc là, tu es complètement dans le côté black hat, et tu as un peu le truc au milieu qui consiste à aller la vendre sur un broker. Il y a des brokers, il y a des places de marché qui achètent des vulnes et qui les vendent à d'autres. Et là, typiquement, tu en as à tous les prix, mais les trucs, les vulnérabilités les plus chères en ce moment, c'est le full exploit, hein, celles qui sont utilisées dans Pegasus. Ouais. Le full exploit, zéro clic, zéro dé sur Android. Donc, c'est ce que fait Pegasus. C'est genre, tu connais juste le numéro de téléphone de ta victime et tu cliques sur un bouton et t'es full route sur son téléphone. Cette vulnérabilité, typiquement, en ce moment, elle coûte 2 millions à peu près. C'est un truc comme ça. Et
ouais, effectivement.
C'est juste que les gens sont très intéressés par ce genre de vulnérabilité. Et ce que fait Pegasus, c'est donc les chercher eux-mêmes ces vulnérabilités ou les acheter aux plus offrants ou aux brokers, etc. Et ensuite, ils ont complètement industrialisé les vulnérabilités. Une fois qu'ils les ont, ils ont packagé le software comme je viens de te l'expliquer. C'est-à-dire qu'à la fin, le software Pegasus, ça ressemble à... Tu mets le numéro de ta victime, tu cliques sur « Hack » et ça y est, tu as un full access à son téléphone. C'est-à-dire que tu peux dumper toute la data qu'il y a dedans. Tu peux écouter, tu peux mettre le microphone « On », tu peux accéder au site auquel il peut accéder. Tout ça sans que l'utilisateur soit capable de notifier rien du tout. Aujourd'hui, Pegasus est pas mal utilisé. Pour faire dans le monde de la cyberdéfense, pour espionner des gens, pour espionner des dissidents, c'est pas mal, on a entendu pas mal de fois, ou alors ouais, pour faire de la défense, quoi, les états qui s'attaquent les uns avec les autres. Donc, le Pegasus, c'est un truc qui est super cher et très industrialisé parce que c'est ce genre de truc. Mais après, tu peux te dire que 2 millions, au final, c'est beaucoup dans un sens, mais c'est pas tant que ça. Genre, si tu es capable de vider tous les wallets, tous les software wallets en un clic sans que personne ne notifie rien, je pense que le coût d'opportunité, il est clairement grand, quoi. Et ça, la vulnérabilité dont je te parle qui coûte 2 millions, c'est 0D. 0D, ça veut dire que même sur la dernière version d'Android, ça fonctionne. Alors qu'en fait, il y a tout un tas, voire 90% du parc de téléphones qui sont dans le monde, qui ne sont pas sur la dernière version et qui ont déjà subi des problèmes de sécurité, des vulnérabilités, qui ne sont potentiellement pas patchés. Et celles-là, elles coûtent beaucoup, beaucoup moins, parce que par défaut, elles sont patchables et elles déjà connues par le vendor. Donc ouais, Pegasus, pour moi, c'est juste un symptôme. C'est juste le symptôme de se dire... on vit dans ce monde où les téléphones et encore moins les ordi ne sont pas du tout sécures. Et quand il s'agit de stocker un truc qui est aussi précieux qu'une seed et pour lequel il n'y a pas de possibilité de revert les transactions, etc., ça me paraît une très mauvaise idée. Voilà.
Et quand tu dis Android, c'est parce qu'iOS n'est pas concerné ou ils sont aussi concernés, mais comme c'est moins de téléphones, tu n'en as pas parlé?
Non, non, c'est juste que Android, c'est le plus cher en ce moment. C'est les vulnes les plus chères par rapport à iOS. Ça veut simplement dire qu'elles sont plus dures à trouver chez Android en ce moment que sur iOS. C'est juste qu'iOS est un peu moins sécurisé quelque part.
Mais, d'accord.
Ouais. Okay. Ça change du jour au lendemain. Mais sinon, c'est pareil. C'est la même chose.
Et justement, au donjon, qu'est-ce que vous faites au quotidien ou en tout cas le plus pour essayer de maintenir nos clés et nos seeds en sécurité? Et si, question qui va avec, moi j'ai mon hardware wallet qui est du coup mon cold wallet et que je mets dans un coin à la banque ou autre et que je me dis je reviens dans 10 ans, si je ne le mets pas à jour, Est-ce que je suis en danger parce qu'on sait qu'on peut souvent le mettre à jour sur Ledger Live, ou est-ce que ce n'est pas grave de ne pas le mettre à jour tant qu'il est dans la banque ou quelque part caché loin du regard des méchants?
Quand tu ne l'utilises pas, c'est, effectivement, ça sert à rien de le mettre à jour. Nous, effectivement, notre système est updatable. Ça, c'est assez pratique, notamment pour fixer les problèmes de sécurité. Mais c'est aussi pratique pour rajouter des nouvelles fonctionnalités. Donc, ce que fait Donjon au jour le jour, c'est essayer de trouver des vulnes tout le temps. Ils en trouvent assez régulièrement. Des graves, je dirais, ça fait longtemps qu'on n'en a pas trouvé. Bon, néanmoins, en tout cas, on essaie d'améliorer les choses. Et dès qu'on voit un petit truc, on se pose la question de est-ce que ça serait exploitable, comment, et est-ce que ce ne serait pas mieux de rajouter une mitigation supplémentaire, etc. Et du coup, on update les firmwares comme ça. Après, si ton device il est dans un coffre, etc., il y a aucun risque. Et au moment où tu en as besoin et que tu as besoin de faire une signature, tu pourrais même continuer à l'utiliser avec la version courante. Parce qu'il faut quand même se dire que tu as quand même le côté air gap complètement. Et quand tu le connectes, aller trouver un exploit qui va utiliser. La surface d'attaque qui est minuscule, ça reste quand même très très faible, donc comme chance. Néanmoins, en tout cas, je vais toujours conseiller d'avoir un système à jour. Je vais pas dire le contraire, mais en tout cas, s'il est à la banque, si ton Android Wallet il est dans un coffre, c'est pas la peine de le sortir pour l'updater. Tu l'updateras le jour où tu as besoin de l'utiliser pour faire des transactions.
Ouais, ok. Et alors, du coup, qui s'attaque, entre guillemets, à nos cryptos? Qui en veut à nos cryptos aujourd'hui? Est-ce que c'est… parce que tu sais, dans la sécurité informatique, on dit beaucoup, la première faille, c'est l'humain. C'est la personne qui va justement pas fermer les yeux et signer les transactions. Donc ça, c'est compliqué de réguler ce problème-là. Mais sinon, qui veut piquer nos cryptos? Est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce qu'il y a un site type? Et quelle est la bonne hygiène à avoir? On en a déjà un petit peu parlé, justement, pour réduire un maximum ces risques-là.
Historiquement, les attaquants, sans parler de crypto, les attaquants en général, tu as deux types. Tu as les organisations criminelles qui font ça pour gagner de l'argent. C'est leur seul but et ils ont tout un tas de méthodes pour le faire. Typiquement, les ransomware, c'en est une, mais bon, il y en a toujours eu des méthodes des organisations criminelles de gagner de l'argent. Et la deuxième classe, c'est les agences d'État, les agences étatiques. Bon, eux, c'est plutôt pour des raisons plus politiques, etc., et pas pour gagner de l'argent, enfin, on espère. Et dans la crypto, globalement, t'as un peu les mêmes profils, quoi. En plus de ça, aujourd'hui, il y a des petits escrocs, tu vois, qui sont pas vraiment dans les organisations criminelles, mais qui se rendent compte que c'est assez facile de scammer, enfin d'escroquer les utilisateurs, parce que justement le truc est compliqué, etc. Et que faire en sorte de typiquement demander directement les 24 mots à l'utilisateur, c'est une bonne stratégie, ça fonctionne malheureusement encore très bien. Donc dans notre écosystème, je dirais les grosses organisations criminelles organisées, elles ne sont pas encore vraiment là. On peut les voir quelquefois, je pense, quand il y a des gros hacks d'exchange, etc. Là, c'est plutôt eux. Mais par contre, sur le end user, c'est plutôt des scammers de petit niveau. Ils sont pas très organisés. Ils sont plus, quelques scammers dans leur bureau, dans leur garage, qui passent leur journée à essayer de scammer les utilisateurs. Et malheureusement, ça fonctionne. Donc, tant que ça fonctionne, ils vont continuer. Les États, je ne sais pas s'ils sont déjà là-dedans, c'est difficile à dire. Mais ouais, de mon point de vue, il y a moins d'intérêt pour les États, puisque là, le principal intérêt, il est directement financier quand tu hack des portefeuilles. Mais des portefeuilles de cryptocurrency. Mais typiquement, si un jour un État veut commencer à déstabiliser Bitcoin, ou je ne sais pas quoi, attaquer de manière massive des gros wallets, ça pourrait être un billet d'attaque intéressant aussi.
C'est une vraie interrogation justement que j'avais avec laquelle on avait échangé avec Serge Baudonnet à ce sujet-là, qui est tout ce qui est les logiciels de messagerie cryptée qu'on a. il est communément dit qu'il y a toujours une backdoor quelque part parce que voilà, il vaut bien que les services secrets ils l'utilisent, que ce soit eux qui l'aient mis en accord avec les gens qui écrivent l'application ou qu'ils l'aient trouvé et qu'ils ne la déclarent pas. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit la même chose dans la cryptographie et qu'ils attendent juste que ça soit plus gros pour mettre un petit coup d'arrêt, ou est-ce qu'a priori non et c'est juste que ça aurait déjà été fait si ça existait?
Ouais, bah, dans la cryptographie, c'est difficile parce que c'est un vrai truc scientifique et peer-reviewed, etc. Bon, insérer une backdoor, c'est compliqué parce que là, c'est de la science et des mathématiques. Après, dans une implémentation, là, c'est différent. Là, tu peux imaginer que soit ils ont fait pression pour insérer des backdoors. Ça, c'est des choses qui arrivent effectivement. Beaucoup moins sur les logiciels open source. D'ailleurs, ça fait partie de l'avantage des logiciels open source. Mais par contre, ce que tu disais juste avant, c'est le fait d'avoir des vulnérabilités et de pas les diffuser, de les avoir trouvées et de pas les diffuser. Ça, c'est un truc assez classique. Typiquement, ça c'est une histoire assez intéressante de la NSA qui connaissait tout un tas de vulnérabilités et se sont fait hacker leur propre serveur dans lesquels il y avait toutes ces vulnérabilités, et donc il y a eu un espèce de chaos pendant les années 2010-12, je pense, où les organisations criminelles utilisaient ces vulnes dans tous les sens parce que la NSA s'était fait pawn. Cette histoire est assez drôle. Qu'est-ce qu'on disait d'autre? Ah oui, après tu me demandais comment
s'en prévenir faire en sorte au mieux.
Comment s'en prévenir? Alors ça, c'est une question qui n'est pas simple. Moi, je pense que la première chose, c'est de faire sa propre recherche et de vraiment essayer de comprendre comment les choses fonctionnent. Parce que comme je te disais, là aujourd'hui, les low-hanging fruits, c'est vraiment de scammer l'utilisateur parce que l'utilisateur ne comprend pas exactement ce qui se passe. Et si déjà tu comprends mieux ce qui se passe, quels sont les risques, comment ça fonctionne, déjà ça t'as une bonne chance d'éviter des grosses erreurs. Ensuite, je sais pas, pour l'utilisateur lambda, de jamais partager ces 24 mots, bon, ça a l'air un peu bête, mais on le répète tout le temps, mais ça vaut le coup, j'ai l'impression. Après, il y a aussi le côté trop beau pour être vrai. Il y a plein de scams où les scammers, ils arrivent et ils disent « Tu vas avoir un airdrop, viens sur Discord, je vais te parler en MP, comment ça marche, etc. » Il faut avoir un peu d'esprit critique. Le côté trop beau pour être vrai et la personne qui vient pour t'aider, il y a quand même des chances que… il faut rester toujours sur ses gardes parce que malheureusement, il y a beaucoup de scams et d'escroqueries dans le milieu, quoi. Et après, le truc que moi, je vais toujours recommander, c'est d'utiliser du matériel spécialisé et des hardware wallets. C'est la meilleure stratégie pour sécuriser ces cryptos. Je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est vraiment le cas.
Et je crois, je suis même presque sûr, Ledger n'a jamais eu de problème de sécurité lié à piratage de crypto-monnaie sur sa clé, hein, sur aucun de ses devices publics.
On n'a jamais eu de vulnérabilité critique de ce type-là. Néanmoins, il y a eu des vulnérabilités que soit le donjon a trouvé, soit qui ont été reportées par le bug bounty et qui sont toutes visibles sur le site du donjon. C'est donjon.ledger.com/bounty, je pense. Là, tu vas pouvoir lister tous les security bulletins. Donc, à chaque fois qu'on découvre un nouveau truc ou qu'on améliore les choses, on fait un petit security bulletin en explicitant le problème qu'on a découvert ou qu'on nous a reporté et comment on l'a résolu. Donc ça, c'est une démarche transparente qui permet d'améliorer la sécurité. La sécurité, c'est pas un truc statique pour toujours. Justement, c'est un truc qui faut toujours avancer, toujours continuer, toujours essayer d'avoir une longueur d'avance sur les attaques, quoi.
Ouais, c'est clair que c'est une course permanente, mais du coup, il n'y a aucune attaque qui a réussi pour voler des clés, de la crypto sur une clé Ledger. Hein. C'est ça.
Non, si je t'ai pas répondu clairement, non, ça ne s'est jamais arrivé.
Ouais, c'est ça. Ok, super. Merci beaucoup, Charles, en tout cas, d'avoir répondu à toutes nos questions sur la sécurité, parce que c'est vraiment quelque chose d'important, surtout parce que plus ça augmente, plus il y a des nouveaux utilisateurs qu'il faut former, et puis surtout, plus les sommes qui sont en jeu sont importantes. Donc, l'intérêt pour les hackers grandit de jour en jour, forcément, pour cet écosystème. Merci beaucoup, Charles, d'avoir du coup répondu à toutes nos questions. Je vous mets tous les liens en description, justement sur le donjon, sur la vidéo avec Charles Baudonnet et d'autres choses autour de la sécurité. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à nous faire tous vos retours en commentaire et nous poser des questions. Si Charles a quelques minutes, il essaiera de vous répondre, ou en tout cas, si on peut apporter des réponses, on le fera. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto. Salut Charles.
Merci à toi, Valentin. Thank you.